trois petits coups, et puis s'en vont.
La quintessence de Vendredi Théâtre, le meilleur des derniers plateaux en direct.
Et oui, Divergence FM, le 93.9, l'émission Vendredi Théâtre. Tito est revenu au plateau avec Robin. Et nous allons parler d'un spectacle qui se joue au Carré Rondelet, qui s'appelle San Antonio chez les Gones. L'ai-je bien prononcé ?
Très bien.
Alors, nous recevons donc Elisabeth Diamantilis, bonjour.
Bonjour.
Et Bruno Fontaine.
Bonjour.
Bonjour. Alors, moi, je n'ai pas encore vu le spectacle. Je vais le voir ce soir ou demain, je ne sais pas encore. Mais Tito et Robin, vous l'avez vu. Alors, San Antonio sur scène, c'est une première.
Alors, ce spectacle a été créé...
Parlez bien dans le micro.
Oui. Le spectacle a été créé il y a maintenant un an.
Tout à fait.
Donc, on l'a repris, on l'avait joué la dernière fois au mois de juillet à Cavalaire. Et donc voilà, là on le reprend, on l'a repris hier, on a fait notre reprise hier soir.
Tito, Robin, qui avait vu le spectacle. Tito, à dire tout honneur.
Ah, moi, j'adore, de toute façon, je suis un inconditionnel de M. Frédéric Dard, alias San Antonio, comme il voulait qu'on l'appelle. Hein. Donc, déjà, c'était une surprise parce que c'est l'histoire en intégrale. Donc, ce ne sont pas des extraits, même si vous avez fait des coupes, évidemment. Ça dure 1h30 et on ne voit pas le temps passer. Donc, ça, c'est aussi une autre performance parce que c'est un monologue. En général, moi, je suis d'opinion que les monologues, c'est difficile de passer l'heure. Hein? Et là, vous réussissez très très bien à passer l'heure et qu'on ait l'impression que ça durait 3/4 d'heure. Donc c'est parfait. Première remarque. Deuxième remarque, c'est la langue est très très belle. Il faut sacrément bien connaître la langue française pour la transformer à ce point-là. Donc ceux qui ne connaissent pas San Antonio peuvent admirer cette capacité qu'avait l'auteur de parler d'utiliser la langue française. Et puis autre remarque, c'est que vous ne cabotinez jamais, ce qui est quand même aussi une performance, puisque les rôles sont tellement typés que ça doit être très difficile justement de ne pas avoir la tendance à cabotiner. Et donc c'est un jeu très très juste. Évidemment, quand vous jouez San Antonio, il faut faire le mec, moi je drague et tout. Mais c'est pas de ça que je parle, c'est-à-dire vous ne vous mettez pas vous en avant, c'est les personnages que vous mettez en avant, et ça c'est très très bien. Voilà, pour l'instant.
Vous faites tous les personnages, vous faites donc San Antonio, vous faites...
Il y en a une trentaine. Voilà.
Et vous faites aussi Berrurier.
Bien évidemment.
L'inénarrable Berrurier.
Il le fallait.
L'animal.
Alors, qui peut nous résumer un petit peu l'histoire San Antonio chez les Gones? Ça se passe à Lyon, si je
Alors,
me trompe.
Oui, en fait...
J'ai un vieux souvenir de lecture.
Tout à fait. San Antonio est en vacances. Hein, il est avec sa maman, Félicie, et puis il reçoit la visite de Berrurier, qui lui est sur une enquête un peu ardue pour lui. Il est à Lyon, et effectivement, il y a deux enfants qui ont disparu dans le petit village de Grand-Gognan au Mont-d'Or. Et il est tout seul sur l'enquête, et il y a aussi un instituteur qui a été retrouvé mort, et pour l'aider, il demande l'aide de son ami San Antonio. Et donc San Antonio va partir avec lui sur les lieux, et là, Berru a la bonne idée, pour passer inaperçu, de devenir instituteur.
Oula.
Donc, une grande aventure. Oui.
C'est une grande aventure avec Berrurier. Voilà, les élèves sont à la bonne école, si on peut dire.
Mais qu'est-ce qu'il leur apprend exactement?
Ah bah déjà, on va jouer aux cartes, hein, parce qu'il faut quand même jouer à la belote avant tout, avec du vin, parce qu'on ne joue pas à la belote sans pinard.
Sans rouge.
Donc voilà, donc, ça annonce tout de suite un petit peu la couleur. Et puis évidemment, après, il y a des rencontres avec une vieille dame, cantatrice, ancienne cantatrice, qui adore l'opéra, qui a une voix assez limite. Et puis voilà, après, il y a toute une histoire de drogue, de meurtre. Voilà, c'est des rebondissements à chaque page.
Toujours une intrigue assez touffue dans les centres.
Exactement, touffue dans les lieux, dans les personnages. Donc ça va assez vite. C'est soutenu dans l'action et dans le verbe également.
Et dans le verbe, oui, parce qu'en fait, il y a toujours une frustration chez Frédéric Dard, on a l'impression, c'est qu'il a, il a toujours cette frustration de ne pas être reconnu comme un véritable auteur, alors que la langue est absolument flamboyante. Il y a des trouvailles à chaque ligne, ouais. Ça fuse. Et puis quand on le relit, on s'aperçoit qu'on n'avait pas vu certaines choses.
Ah, tout à fait.
Un peu comme Bobby Lapointe, on réécoute à chaque fois quelque chose de nouveau.
C'est l'amour de la langue. Je pense que c'est des gens qui ont l'amour de la langue. Et je pense qu'il a choisi un créneau qui lui allait bien. Hein. Je pense que Frédéric Dard, je pense qu'il s'est éclaté à écrire tous ses romans. En tout cas, il avait l'air assez heureux de tout ça, quoi. Et c'est vraiment l'amour des mots, quoi. Ça fait vraiment, pour moi, ça fait vraiment partie du patrimoine de la littérature française.
Absolument. En plus, il y a une culture littéraire impressionnante chez Frédéric Dard, dont il joue tout le temps et qu'il torture et qu'il en fait autre chose.
Il triture.
Voilà, c'est le mot que je cherchais.
Triture les mots. Oui, c'est un grand bonheur. C'est un grand bonheur à lire et à jouer également, quoi.
Robin, toi, tu ne connaissais pas Sant'Antonio ?
Et non, j'ai découvert Sant'Antonio et Frédéric Dard au théâtre. Et ça a été un grand bouleversement. Vraiment, j'ai passé une heure et demie extraordinaire à rire comme j'avais jamais ri au théâtre.
Oui, j'ai beaucoup entendu.
Vous avez dû entendre Tito aussi.
Oui, le rire de Tito est
assez connu.
Très repérable.
Et vraiment, j'ai accroché, j'étais charmé par ces deux personnages, par le Berrurier et le Sant'Antonio. Et cette langue, elle m'a vraiment subjugué. C'est-à-dire qu'à la fois, on rigole et le spectateur est sollicité tout le temps, en fait. Ouais. Cette langue, elle nous met en éveil à la fois le rire et à la fois l'intellect aussi. Parce que derrière chaque phrase, moi, chaque fois, je me disais, parce qu'en plus, c'est de l'argot que nous, on n'a pas l'habitude de connaître. Et d'ailleurs, Sant'Antonio, c'est... malheureusement une œuvre assez peu connue chez les jeunes générations, et du coup il fallait toujours un travail de repérage dans la langue et de translittération dans le langage d'aujourd'hui, quoi. Ouais. Et du coup c'était un humour qui est totalement nouveau, et à la fois très ancien et pour moi qui était nouveau, et qui m'a complètement fasciné. Et tout le long, on est en accroche. Et puis l'intrigue est assez exceptionnelle, quoi. Et donc ce personnage, quand Berrurier va faire le rôle de l'instituteur, alors là, c'est incroyable. Et là, il y a les générations se retrouvent. On se retrouve tous ici dans cet instituteur complètement... complètement
original. Original.
Berruriesque.
Berruriesque.
Alors c'est marrant, il y a un spectateur qui m'a dit hier, moi je me suis régalé parce qu'il y a plein de phrases, on a envie de les retenir en se disant ça, il faut que je me souvienne. Et il m'a dit le problème c'est que t'en as une autre qui arrive juste derrière et qui efface celle d'avant et ainsi de suite.
Exactement,
et il disait, je sors du spectacle, j'en ai retenu peut-être deux ou trois et j'ai envie d'y retourner, quoi.
Il faut revoir le spectacle.
Exactement, et je pense qu'on a aussi envie de relire les
sans
le revoir. Ça fonctionne un peu de la même façon, c'est on a envie d'y retourner pour se faire plaisir aux oreilles et aux yeux, quoi.
On parlait d'argot tout à l'heure, mais c'est pas vraiment d'argot, c'est du Sant'Antonio, c'est des créations à chaque fois.
Ouais.
C'est pas un argot qui existe forcément dans la
rue. C'est un mélange. Il y a des mots pour les chapeaux, par exemple. Il y a tout un tas de noms pour les chapeaux. Hein,
le bitos.
Le bitos, notamment.
On se souvient.
Mais il le disait de lui-même, il disait que quand la langue française lui refusait un mot, il l'inventait. Et effectivement, il s'est créé son propre langage, son propre univers, effectivement.
Alors je me tourne vers vous, Elisabeth. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en scène ce monstre de langage, quand même?
Un défi, le challenge.
Le challenge.
Non, on travaille ensemble avec Bruno depuis quelques années. Et c'était une envie aussi de faire quelque chose seul sur scène. Et quand il m'a présenté ce texte, c'est vrai que l'écriture de Frédéric Dard, de Sant'Antonio, est complètement théâtrale. Ce que tu disais tout à l'heure, Robin, très justement, c'est qu'il s'adresse à ses lecteurs, il les apostrophe régulièrement en disant « Mais quoi, vous n'avez pas compris? Vous êtes vraiment nuls? Mais tournez la page! » Il les insulte, enfin bon. Et c'est briser le quatrième mur, finalement. Et ce que nous, on appelle le quatrième mur au théâtre. Donc c'était une évidence que déjà ce langage-là était fait... pour être mis sur une scène, pour être dit.
Pour être mis en bouche.
Voilà, pour être parlé.
C'est marrant parce que moi, il m'a fait penser un peu au langage rablaisien presque. Comme un nouveau Rabelais, cette invention, cette très prolifique et à la fois cette interpellation du lecteur qui nous rappelle aussi cette monstruosité qui était Rabelais. Quoi.
C'est exactement ça. Et génial. Puis c'est tout à la première personne aussi. Enfin, quand il raconte, c'est Sant'Antonio qui raconte. Donc de toute façon, il y avait le jeu déjà là, tout prêt pour un comédien. Et puis après, voilà. voilà, c'était aussi un défi de une seule personne, ouais, un seul comédien
c'était
là-dessus.
C'était vraiment un défi déjà pour adapter. L'adaptation est quand même assez ardue parce qu'il faut garder l'intrigue, mais en même temps, il faut garder la subtilité de la langue, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout couper non plus.
Oui.
Et ça, c'est très dur parce qu'à chaque fois, on se dit, oh, ça, il faut le garder quand même, c'est très drôle. Bah oui, mais ça aussi, c'est drôle. Ah, bah, ouais,
bon, tout est drôle.
Tout c'est est ça, drôle. Et ça. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut couper là, et puis il y a des fois, les actions nous entraînent dans des endroits où on se dit, là, il y a trop d'actions, il faut revenir sur. Et ça, c'est l'équilibre est compliqué à trouver. Et après, il faut tenir la cadence sur scène, parce que c'est une heure et demie non-stop avec une trentaine de personnages, il faut tenir le coup jusqu'au bout.
Il faut tenir la précision.
Ouais,
la précision du personnage à chaque fois, puisqu'il n'y a pas de changement. Enfin, voilà, Bruno a un costume le même du début à la fin. Il n'a comme décor et accessoires qu'une seule chaise. Donc c'est très restreint, hein, on peut voyager très facilement. Mais effectivement, tout se passe dans la précision du regard, du geste, de la voix, de la tenue de corps, pour que le spectateur suive et que ce soit très lisible finalement, et que chacun puisse se créer son univers malgré tout et avoir les images qu'il veut.
Et là, l'importance d'Elisabeth dans le travail de suivi, c'est pour éviter de cabotiner justement, parce qu'on a vite fait, enfin, le comédien a vite fait de se perdre un peu parce qu'il se dit tiens ça marche, je vais en rajouter une petite louche ici, puis une petite louche là, puis finalement c'est là où on se met à cabotiner, et l'importance du regard extérieur là prend tout son sens, là c'est très important de recadrer systématiquement.
On parlait de Rabelais tout à l'heure, Robin parlait de Rabelais, mais comment est-ce qu'on aborde un personnage énorme comme Berruyer?
Alors c'est très étonnant parce que
c'est intimidant quand même comme masse.
Il ne faut pas se poser de questions. C'est comme quand on joue Hamlet, il ne faut pas se poser de questions. Non, bizarrement, il est venu assez rapidement ce personnage. Je l'avais un peu en tête. C'est marrant, quand on démarre sur certains personnages, on a quelque chose qui est dedans déjà. Et c'est un mécanisme. Berruyer, il est surtout... Enfin, moi, je le ressens comme... une boule de nerfs à l'intérieur, quoi. Donc tout est dans une énergie très forte. C'est une énergie très très forte que je sens dans ce personnage. Et après, du coup, physiquement, j'ai pas besoin d'en rajouter beaucoup. Oui. C'est surtout dans l'énergie intérieure que ça bouillonne.
Ouais. Est-ce que ça serait possible d'avoir un petit extrait ou pas? Je sais pas si vous en ont parlé.
Non, ils m'ont non,
ils
m'ont
rien dit. C'est un petit peu une tradition.
Ah bah tiens, je ne savais pas.
Voilà,
bah,
de faire un extrait.
C'est ma faute, ma culpa.
Un petit
tu seras flagellé à la fin de l'émission.
Je pourrais faire, je sais pas, le tout début.
Oui. Faire le tout début.
Donc ça avait commencé. Donc tout avait commencé lors d'une visite de Sa Majesté Berruyer Ier. Hein. J'étais en vacances chez ma mère Félicie et un beau matin, Berruyer s'était annoncé le masque soucieux.
Ah, c'est baluche que tu sois le pas de service,
m'avait-il annoncé, bille en tête. Et pourquoi, baby?
Parce que je viens d'hériter d'une enquête que j'aimerais mieux que ça soit toi qui l'aies sur les endos.
Où en moi avait frémi la petite sonnerie de mon subconscient. Celle qui retentit chaque fois que je pressens un truc. Soit.
T'as lu l'affaire de Grand Gognon Mondor?
Non, je ne lis jamais les baveux lorsque je suis en vacances.
C'est un bled, près de Lyon. Figure-toi que voilà une huitaine, un môme disparaît. Le fils d'un viticulteur, 13 ans, un gosse sérieux. Le pays entreprend des battues avec les gendarmes. La brigade mobile de Lyon entre dans la course, 0. Impossible d'en mettre la main sur le mouflet.
Voyons, c'est moche.
Attends, c'est pas tout.
Voilà, je vous laisse deviner la suite.
Ça démarre sur des chapeaux de roue. Alors, l'œuvre de San Antonio, c'est une œuvre énorme. Il y a je ne sais pas combien de...
175, voilà. 175.
Je veux dire plus de 100, donc je n'étais pas loin de la vérité. Pourquoi avoir choisi plus précisément ce roman par rapport...
Un peu parce que nous sommes des gones, à la base aussi.
On est gones, voilà. On est des gones.
Qu'est-ce que ça veut dire gones?
C'est gamin.
D'accord. En lyonnais.
Ouais, c'est le patois lyonnais, c'est le gamin.
Et donc, c'est un spectacle qui tourne. Et quelles sont les réactions du public? Là, vous avez eu deux personnes du public en direct. Alors, mais en général, les gens le prennent comment?
Très, très, très bien. Alors, ce qui est étonnant, et moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que autant les gens qui connaissent que les gens qui ne connaissent pas sont sous le charme. Et ça, c'est plutôt bien parce que c'est un univers qui est quand même très fermé. Enfin, très fermé dans le sens très particulier. Et il y a des gens qui rentrent pas. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Moi, je j'aime pas San Antonio, j'en ai déjà lu, j'aime pas. » Qui sont venus voir quand même et qui m'ont dit « J'aime toujours pas San Antonio, mais je dois dire que le spectacle m'a plu. » Donc voilà, moi, pour le moment, je suis ravi des réactions des gens.
Tito, une petite réaction.
Comment est-ce qu'ils font pour ne pas aimer San Antonio? Non, c'est pas grave. Ouais,
je sais pas.
Il y a mystère. Des gens comme ça.
Il y a des mystères. Mais c'est vrai qu'il y a deux aspects dans Frédéric Dard. Il y a Frédéric Dard qui écrit San Antonio, donc l'œuvre que l'on connaît, que ça soit l'histoire de France selon Berrurier, le Standinge, et j'en passe des centaines. Il y a aussi un volume qui est très bien qui s'appelle Les Cons, qui est une merveille.
Ah, l'histoire de France.
Ah, oui, l'histoire de France, je l'ai cité. Et l'œuvre de Frédéric Dard, qu'il signe Frédéric Dard, est tout à fait différente. Ah. C'est beaucoup plus sombre, c'est du polar très très noir.
Oui, c'est très noir.
Très très noir. Je pense notamment au roman qui s'appelle Caput, l'histoire d'un tueur psychopathe qui est vraiment là assez patiné.
Il a une partie sombre, très sombre.
Mais il se définissait lui-même comme un écrivain forain. Donc une fête foraine, c'est gai, c'est fantastique la journée avec les cris des enfants, avec la musique, les lumières, les barbes à papa. Et le soir, c'est terriblement glauque quand il n'y a plus personne et que tout est fermé. Et c'est exactement ça. C'est ce qui... cette immense générosité qu'il avait en tant qu'homme, comme souvent les gens très expansifs et généreux, au fond il y a une grande tristesse, une grande noirceur qui l'a aussi entre guillemets nourri plus ou moins à son, enfin, contre sa volonté lors de l'après-guerre où il a vécu des choses, on en parlait hier soir, qui étaient assez, assez fortes et cruelles et qu'il n'a pas pu exprimer concrètement de son vivant, sauf les derniers jours de vie, je crois, dans des délires. Il avait perdu un petit peu la tête et il y avait certaines choses qui ressortaient, mais c'est quelque chose dont il n'a jamais voulu parler à ses enfants, à ses amis. Ce sont des périodes très très noires qui l'ont marqué à vie.
Il a écrit un roman d'ailleurs à ce sujet sur la période de l'épuration, tout comme Audiard d'ailleurs. Audiard a aussi écrit un roman, paraît-il très très bien également. Et ces deux personnes ont été très marquées par cette période-là.
D'ailleurs, on voit, c'est dans son histoire de France qu'on voit qu'il haïssait le gaullisme, mais vraiment à un point. Donc, il vivait en Suisse, mais il vivait en Suisse, à mon avis, surtout parce qu'il détestait la France, pas le pays France, mais ce qui était la France, la période que la France traversait. Et il a eu un petit espoir dans les années 80, mais il était assez déçu par la suite.
Mais il s'attire en Suisse.
Mais voilà, et ça se sent dans ses romans. Il aime bien les gens, il aime bien les Français, il aime bien l'esprit français. Mais il n'aimait pas le pays France, il n'aimait pas ça.
On va rappeler donc que c'est au Carré Rondelet. Alors les dates, moi je ne les ai pas sous les yeux.
Donc c'est jusqu'à dimanche prochain. On joue ce soir à 21h, et ensuite c'est 20h30, demain. Et dimanche c'est 18h. C'est bien ça.
Voilà, mais courez-y, parce que visiblement, Tito et Robin sont revenus vraiment avec un grand sourire aux lèvres du spectacle.
Thérapeutique par le rire.
Et il faut soutenir le Carré Rondelet, il faut soutenir les petits théâtres à Montpellier, où on peut voir des choses comme ça.
Toutes les semaines, Vendredi Théâtre, l'émission qui assiste au spectacle et prend le temps d'en parler.